Dieu, les femmes et la République, une émission proposée par 8 étudiants de la première promotion d'Emouna Sciences Po.
Mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Ceci n'est ni une erreur d'éphéméride ni une erreur de genèse, selon le mot de Boris Vian. Juste le rappel qu'aujourd'hui, les discriminations dont les femmes font l'objet contraignent au questionnement. Ou l'histoire fait-elle fausse route ? Serait-ce dès l'origine, c'est-à-dire dès la création de l'homme et de la femme ? Étonnamment, dans les textes bibliques fondateurs, la femme jouit d'un statut VIP. Elle est création divine, audacieuse, conquérante, et de grandes figures marquent d'ailleurs de leur empreinte l'histoire du monde. Mais au fil de l'histoire, son statut se dégrade. Une dégradation que justifieraient les textes bibliques ? À moins que ce ne soit le fait d'interprétations erronées. Aujourd'hui, la journée internationale du 8 mars s'impose pour rappeler les droits fondamentaux des femmes. Alors, les grandes religions sont-elles misogynes ? Que disent réellement les textes fondateurs ? À qui profitent les discriminations sexistes ? Que dit la loi de la République ? Pour parler de tout ceci, nous recevons des hommes et des femmes, de bonne foi bien sûr, religieuses et républicaines.
Maintenant, écoutons les étudiantes d'Emouna à l'école Sciences Po sur la question de la parité homme-femme dans leur religion.
Moi, j'ai quitté un milieu traditionnel juif pour aller vers le libéralisme, justement parce qu'il n'y avait pas de parité. Parce que, en tant que femme, tout ce qu'on m'offrait, c'était une place d'épouse, de mère, mais jamais de membre actif au sens religieux de la communauté.
On sait très bien que dans la religion catholique, pour le coup, le ministère ordonné est réservé aux hommes. Donc c'est quelque chose qui est complètement acquis et culturel. Il y a des attitudes de vexation, il y a des théologiennes qui sont mal considérées parce qu'elles sont femmes et qu'il me semble qu'il y a souvent du machisme.
J'observe que dans certaines paroisses catholiques où les laïques femmes distribuent la communion, elles ont beaucoup moins de succès que les prêtres, les diacres ou les hommes qui distribuent la communion.
Sur la féminisation du corps pastoral, je pense qu'elle est plus forte dans les jeunes générations qu'elle ne l'est dans les générations plus anciennes. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien de plus à faire que de laisser du temps au temps.
Non, actuellement non. Traditionnellement, historiquement, oui, il y en a eu, mais maintenant, non, il n'y en a pas. Il y a des gens dans ma religion qui préfèrent que leur cardiologue soit un homme ou laisser leur voiture à un garagiste plutôt qu'à une garagiste. C'est les mêmes qui préfèrent que ce soit un théologien plutôt qu'une théologienne ou un pasteur plutôt qu'une pasteur. Mais c'est absolument pas spécifique à la religion. Et en tout cas, dans nos textes et dans nos dogmes, le genre ne rentre jamais en cause. Jamais.
Merci à Philippe pour avoir recueilli ces témoignages des étudiants de la première promotion d'Emouna Sciences Po. Et laissons la parole à Armand Abécassis, écrivain, professeur honoraire de philosophie générale et comparée à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux 3 et enseignant à l'Alliance israélite universelle.
Sur le plan pratique, l'histoire, la situation des Juifs, l'exil, l'oppression, l'anti-judaïsme, enfin, les croisades, enfin, tout ce que les Juifs ont subi, ont conduit les rabbins à certaines positions, parfois extrêmes et extrémistes, sur la femme. Mais ça, c'est des accidents de l'histoire qui, malheureusement, aujourd'hui, continuent et dans le droit juif, oui. Élaboré par les rabbins, et on lutte contre cela aujourd'hui, mais c'est très difficile, comme partout ailleurs, on ne peut pas remonter 2000 ans d'histoire et en une génération, ça se fait, oui. D'où, comme on n'arrive pas à décider, d'une manière collective, comme du temps de la Bible, ou du temps des rabbins même aussi, au départ, la communauté juive s'est divisée. Alors il y en a qui, déjà, veulent absolument remonter à la Bible, et puis passer par-dessus un certain nombre de lois des rabbins. Il y a des domaines où ils ont raison, des domaines où ils ont tort. Voilà. Alors, sur le point de vue de la Torah, il est clair que jamais la Torah n'a dit que l'homme était à l'image de Dieu. C'est l'homme et la femme qui sont à l'image de Dieu. Le verset est au pluriel. C'est pas l'homme et la femme, c'est la parole au pluriel. Et c'est, autrement dit, c'est la rencontre entre le masculin et le féminin qui est divine. Mais le divin n'est pas dans l'homme, le divin n'est pas dans la femme. Ça, c'est dès le départ. Et la Bible le montre. Par exemple, je dis toujours, mais de manière sérieuse et circonstanciée, que, nous sommes en train, nous, de faire réussir le projet de la femme et non pas le projet de l'homme. Alors officiellement, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Mais Abraham, le choix d'Abraham n'a pas été accepté par Sarah. C'est Sarah qui le lui a imposé. Oui. Ensuite, le choix d'Isaac n'a pas été imposé par Isaac. C'est sa femme Rebecca qui a changé Ésaü avec Jacob. C'est Jacob qui l'emporte et ainsi de suite. Voilà. Moïse n'a été sauvé que par une femme, Myriam. Il a été sauvé aussi par la fille du Pharaon. Oui. Et quand on voit, par exemple, dans le deuxième livre de la Bible, Exode, le deuxième chapitre, on raconte la naissance de Moïse, on voit qu'on ne parle que des femmes, les suivantes de la mère, la mère d'abord de Moïse, la sœur Myriam, la fille de Pharaon, les suivantes de la fille de la princesse, donc. C'est des femmes que continuellement, oui, oui, et à l'intérieur aussi. En tout cas, ce qui est important, c'est, ça veut dire donc que les hommes et les femmes étaient au Sinaï et qu'ils ont entendu Dieu, que la femme a entendu Dieu, au même titre que l'homme. C'est ce que j'ai dit, moi. C'est à la femme, si elle veut bien se mettre à l'étude sérieuse, c'est à elle à faire la révolution à l'intérieur de la communauté. Et donc le grand problème pour l'homme est un problème de féminité, parce qu'il donne, il donne, il donne, il ne sait pas qu'il a reçu avant de donner.
Merci Armand Abécassis. Écoutons maintenant Corinne Lanoir, doyenne de la faculté de théologie protestante de Paris, qui s'exprime sur la figure de Marie dans le Nouveau Testament.
C'est intéressant, Marie, parce que justement, c'est une figure très multifacette. Hein. On va avoir une figure de Marie soumise, qui dit « je suis la servante du Seigneur » et qu'on va utiliser dans une dynamique en fait de soumission. Hein. Mais en même temps, le fait de dire « je suis la servante du Seigneur », c'est aussi dire « je ne suis la servante de personne d'autre ». Et donc, on va pouvoir aussi travailler sur une figure d'une Marie assez différente, qui s'inscrit par exemple dans la généalogie de Matthieu, derrière plusieurs femmes, qui sont toutes des femmes très problématiques, on va dire, dans une conception éthique classique. Hein. On a Rahab, la prostituée de Jéricho, on a l'adultère de David avec Bethsabée, on a Ruth, une femme moabite, donc étrangère. Et Marie, elle s'inscrit aussi derrière, dans une ligne avec ces femmes-là. Hein. Donc, c'est-à-dire des femmes qui, quand il faut choisir entre la vie et la loi, choisissent la vie, quitte à mettre leur corps même en jeu, hein, parce que chaque fois, c'est dangereux. Donc, Marie peut aussi s'inscrire là. On a aussi d'autres figures de Marie, comme plutôt la princesse rayonnante, avec un pouvoir particulier. Donc ça, c'est encore une autre lecture. Elle est très, très multifacette, Marie.
Après la figure de Marie exposée par Corinne Lanoir, laissons place à la lecture du Coran. Qu'en dit Aïcha, étudiante à Emouna Sciences Po ?
La femme musulmane n'est pas soumise, elle est soumise à Dieu. Dans ma tradition, dans ma religion, il n'y a pas de différence par rapport à l'homme ou la femme, sauf que tout est donné à l'éducation. C'est l'éducation que chaque personne a eue qui fait qu'on met la femme un peu en dessous de l'homme. Si on regarde dans différents pays musulmans, je vois la différence entre tradition maghrébine et tradition du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, même si on voit des femmes qui sont voilées intégralement, on va se retrouver avec des hommes qui vont assumer financièrement. Il y a au Maghreb des traditions, c'est une tradition dont on a éduqué, comme quoi que la femme elle a été toujours en dessous, il faut qu'elle soit sous l'ordre du mari. Et ça a été cette problématique-là. C'est-à-dire que l'incompréhension des textes a généré cette petite soumission de la femme, malheureusement, pour certaines personnes. Mais bon, je pense qu'il faut revendiquer, puis il ne faut pas se laisser faire, les filles.
Nous vous proposons maintenant d'écouter son éminence, l'archevêque Jean de Carépolis, exarque du patriarche écuménique des paroisses orthodoxes russes en Europe occidentale. Il évoque la place de la femme dans l'Église orthodoxe.
Alors, la situation dans l'Église orthodoxe par rapport à l'ordination des femmes n'est pas actuelle dans les jours d'aujourd'hui, si vous voulez. Par contre, il y a une grande réflexion qui s'est faite depuis pas mal d'années au niveau du diaconat féminin. Il y a eu des réflexions, par exemple, en Grèce, Certaines églises même ont ouvert le diaconat féminin, comme l'église copte par exemple, qui a restauré une forme de diaconat féminin à travers des sœurs qui sont engagées, mais surtout dans de l'action, si vous voulez. Alors je crois qu'à l'heure actuelle, dans l'église orthodoxe, il n'y a pas une demande vraiment, comment on pourrait dire, vraiment franche, vraiment fondée ou avec une action sur militante, voilà, d'une demande comme ça d'accès au sacerdoce du côté des femmes.
L'intervention de Monseigneur Jean de Kariopolis nous fait voir que au niveau des religions, il y a des choses qui bougent et la cité elle-même bouge aussi. Pour nous en rendre compte, nous sommes allés rencontrer Valérie Duchesse. Elle est conseillère responsable du secrétariat pour les droits des femmes au Sénat. Voilà, elle nous fait voir l'apport du droit et des législateurs par rapport à la place des femmes dans les religions et de façon générale la place des femmes dans la société.
Alors, on parle du droit français et de comportements inspiré par la religion ou par une certaine conception de la religion qui n'est pas celle qui s'exprime dans Emouna. Il faut quand même l'avoir bien présent à l'esprit. Ce sont des comportements, à mon avis, déviants au regard de la religion. Il y a une faute à ne pas commettre qui est, vis-à-vis de ces comportements, de se situer sur le terrain de la laïcité pour les interdire. Parce que ça reviendrait implicitement à les justifier sur le plan de la religion et à dire, effectivement, c'est un comportement religieux de refuser de serrer la main d'une femme. Et donc, au nom de la laïcité, même si légalement la laïcité n'a pas sa place dans l'entreprise, qui est un lieu privé, qui est régi par d'autres règles du Code du travail et du droit international, mais ce serait accepter implicitement que ces comportements soient liés à une croyance religieuse. Et donc ça, c'est absolument inacceptable. Et il ne faut surtout pas se placer sur ce terrain pour dire aux responsables de ces comportements qu'ils ne doivent pas agir ainsi. Il faut vraiment s'en tenir à la loi de la République, et la loi de la République permet de sanctionner de tels comportements, comme je le disais tout à l'heure, sur le terrain de la discrimination, ou même dans le droit du travail, sur le terrain de l'agissement sexiste, et peut-être un jour, si l'agissement sexiste était étendu au code pénal, ça deviendrait un délit autonome.
Voici un kaléidoscope de la place de la femme dans les religions et dans la société civile aujourd'hui. Des points de vue différents qui nous laissent penser qu'il y a encore des progrès à faire pour le respect du statut de la femme en 2017. Les auteurs de ce projet collectif de fin d'études d'Emouna Sciences Po sont Véronique Dubois-Guidalia, en tant que chef de ce projet, Jérôme Balouin, Tokbeji Léon Edaille, Andrei Goudko, Philippe Juden, Étienne Kerber, Olga Vock et Guylaine Dubois. La musique des intermèdes est celle de Debbie Friedman. Les génériques reprennent la chanson d'Antoine « Nous irons tous au paradis ». L'émission a été réalisée par FM+, 91 FM à Montpellier, à la technique Stéphane Marin et Manu Lullier.
Qu'on ait fait le bien ou bien